Bienvenue sur les JO en ondes, moi c'est Garance et donc on va parler des Jeux Olympiques, n'est-ce pas Martin ?
Bonjour à toutes et à tous, et Martin et Niger au micro, au sommaire de cette émission. Les dates des premiers Jeux Olympiques, la différence entre JO d'hiver et JO d'été, les disciplines anciennes et nouvelles, les grands champions français, les pays les plus médaillés, on parlera des prochains JO à Paris et on nous dira où sont les sites des épreuves. Économie et JO, écologie et JO. Du dopage, on parlera des Jeux paralympiques et pour finir, des insolites. Avec tout de suite les dates des premiers JO avec Garance.
Merci Martin. Donc il faut savoir que les premiers Jeux olympiques datent de 1896. Il s'est déroulé à Athènes pendant 9 jours et 241 sportifs y participaient. On va maintenant parler des JO d'hiver et des JO d'été avec Martin.
La différence entre les JO d'été et d'hiver sont les JO d'été se déroulent en été, juillet à août, alors que ceux d'hiver se déroulent en hiver, bien sûr, février à mars. Les Jeux d'hiver se déroulent la plupart du temps en montagne. Ceux d'été se déroulent plutôt en ville. Les Jeux d'été sont plus regardés, car leurs sports sont plus populaires, même si les Jeux d'hiver sont l'occasion de découvrir d'autres sports. Les JO d'été sont plus regardés également, car ils sont plus longs, et pendant l'été, donc en France, ils sont plus regardés grâce aux vacances d'été. Le public est plus jeune.
Parlons maintenant des anciennes et des nouvelles disciplines aux Jeux olympiques.
Les premiers Jeux olympiques regroupaient des disciplines qui aujourd'hui n'existaient plus. Mais depuis, au fur et à mesure des différents Jeux, de nouvelles disciplines sont apparues. Quelles sont les anciennes activités sportives ? À l'Antiquité, il y avait déjà la lutte, le lancer de javelot et le saut en longueur. La course à pied, par exemple, on pourrait aussi assister à des courses de chars avec 2 ou 4 chevaux et à des compétitions de pugilas et de pancras, qui sont des sports similaires à la boxe anglaise où presque tous les coups étaient permis. Aujourd'hui, le pugilas et la pancras sont interdits. Le saut en longueur est encore dans le sport olympique, tout comme le lancer de javelot par exemple. La lutte a changé de consigne car maintenant les personnes ne sont plus nues lors des combats. On note l'arrivée des nouvelles disciplines olympiques. La gymnastique artistique, le tir à l'arc et le badminton sont de nouvelles disciplines olympiques. En 2024, à Paris, on pourra assister à des compétitions de biking, de skateboard, d'escalade sportive et de surf. Ces sports n'existent plus à l'Antiquité. On note aussi des sports tels que le taekwondo, le canoë, le BMX freestyle et des sports collectifs comme le football, le handball, le rugby, le volleyball et le basket. Pas étonnant qu'avec toutes ces disciplines, la durée des Jeux ont passé de 3 jours à 2 semaines, voire 4 semaines si on compte toutes les disciplines anti-sport qui n'existaient pas à l'Antiquité. À l'Antiquité, les personnes handicapées n'avaient pas le droit de participer. Aujourd'hui, les consignes de sécurité ont beaucoup évolué en fonction des sports. Par exemple, pour le tir à l'arc, les cibles sont éloignées du public car des spectateurs ou arbitres pourraient être blessés.
Merci beaucoup, Loane.
On se retrouve juste après Alok, Love Again.
cause my heart's icy cold.
Écoutez Radio Tintouin,
la radio qui fait le lien.
On voit tout de suite quels sont les grands champions français avec Esteban.
Donc bonjour, je suis Esteban et aujourd'hui je vais vous parler, donc comme l'a dit Martin, des grands champions français. Et on va tout de suite commencer par les médaillés de cette année, donc des JO de Pékin. Donc on va commencer par les médailles de bronze avec Mathieu Fèvre qui a obtenu une médaille de bronze pour le slalom géant masculin. Je vais vous parler aussi du relais homme. Donc Richard Jouve, Hugo Lapeus, Clément Paris et Maurice Magnificat ont obtenu la médaille de bronze. Joanne Claret, pour la descente masculine, a obtenu la médaille d'argent. On peut aussi noter que c'était le plus vieux médaillé français de l'histoire des JO. Chloé Trespetsch a obtenu la médaille d'argent en snowboard. Tess Ledeux a eu la médaille d'argent aussi en freestyle Big Air. Anaïs Chevalier-Bûcher, le 15 km femme. Le Quentin Fillon-Maillet a obtenu le biathlon en sprint, toujours en argent. Quand on parle du loup, Quentin Fillon-Maillet a obtenu la médaille de biathlon sprint en argent. Pour le relais homme, c'est Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Destieux et Quentin Fillon-Maillet a obtenu la médaille d'argent, encore lui. Anaïs Chevalier-Bûcher, Julia Simon, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet ont obtenu la médaille d'argent pour le relais mixte. Passons aux médailles d'or. Quentin Fillon-Maillet a obtenu la médaille d'or en 10 km et aussi en poursuite. Justier Brézier-Louatte a obtenu la médaille d'or en mass start femme. Gabriel Papadakis et Guillaume Cizeron ont obtenu la médaille d'or en danse sur glace. Et Clément Noël a obtenu la médaille d'or en slalom homme. Donc ce qui fait en tout 14 médailles d'or pour la France, dont 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze. Je vais maintenant vous parler des plus grands champions français, mais de tous les temps, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous parler de Soria Bonaly, qui était une patineuse artistique française, qui, en 1994, a participé aux Mondiaux de patinage artistique, et qui a fait une magnifique performance, même mieux que toutes les autres, mais qui a obtenu la médaille d'argent. Sauf que ce que je n'ai pas précisé, c'est que Soria Bonaly était une patineuse noire. Et à l'époque, il y avait beaucoup de racisme, de choses comme ça, et Soria Bonaly a senti qu'il y en a, que dans ce cas-là, c'était bien du racisme dont il était cause. Et pour protester contre cela, elle a décidé de ne même pas monter sur le podium, elle a refusé sa médaille pour protester contre le racisme qui était là à l'époque. Donc, je vais vous parler de Teddy Rinard, qui est un judoka français absolument exceptionnel, donc qui a obtenu 3 médailles d'or et des centaines en argent. Bon, peut-être pas des centaines, mais quand même beaucoup. Donc, je voulais vous en parler, car en fait, dans notre collège, donc le collège Fernégé, nous avons une classe, la classe Ulysse, donc, qui est réservée aux personnes ayant un handicap cognitif. Qui, donc, il y a une classe qui s'appelle la classe Teddy Rinard, justement, et donc c'est pour ça que je voulais en parler. Et pour finir, bon, il n'est pas français, mais quand même, il a réussi un exploit. Je voulais parler d'Usain Bolt, qui a quand même eu un record à 9 secondes 58 centièmes en sprint 100 mètres, donc ça lui fait une moyenne de 44,72 km par heure. Voilà.
Merci beaucoup Esteban pour toutes ces informations. Et maintenant, parlons des pays les plus médaillés avec Emma. Aujourd'hui, je vais parler des pays les plus médaillés, en commençant par ceux d'avant 2016. En première position, nous avons les États-Unis avec 2679 médailles. En deuxième position, nous avons la Russie avec 1204 médailles. En troisième position, nous avons l'Allemagne avec 1162 médailles. En quatrième position, nous avons la Royaume-Uni avec 800 médailles. En cinquième position, nous avons la France avec 781 médailles. En sixième position, nous avons l'Italie avec 664 médailles. En septième position, nous avons la Suède avec 626 médailles. En huitième position, nous avons la Hongrie avec 482 médailles. En neuvième position, nous avons la Chine avec 596 médailles. Et en dixième position, nous avons l'Australie avec 480 médailles. Pour ceux de cette année, nous avons la Norvège qui a eu 16 en or, 8 en argent, 13 en bronze, ce qui fait un total de 37 médailles. En Allemagne, ils ont eu 12 en or, 10 en argent, 5 en bronze. En Chine, ils ont eu 9 en or, 4 en argent, 2 en bronze. Aux États-Unis, ils en ont eu 8 en or, 10 en argent et 7 en bronze. En Suède, ils ont eu 8 en or, 5 en argent et 5 en bronze. Pour les Pays-Bas, ils en ont eu 8 en or, 5 en argent et 4 en bronze. En Autriche, ils ont eu 7 en or, 7 en argent, 4 en bronze. Ensuite, pour la Suisse, ils ont eu 7 en or, 2 en argent, 5 en bronze. Pour la France, nous avons eu 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze.
Merci beaucoup Emma. Et je me pose une question. Paris 2024, c'est dans 2 ans. Mais où sont les sites, Garance ?
Alors, il faut savoir que les Jeux Olympiques, ça se déroule pas que à Paris. Nous avons cherché pour vous les différents sites officiels des compétitions. Et en effet, beaucoup d'épreuves vont se dérouler à Paris et en Île-de-France, mais aussi dans différentes villes, voire en dehors du territoire français. Le basket, la gymnastique artistique et le trampoline se déroulent à l'Arena Bercy. Le volleyball, le tennis de table et l'haltérophilie auront lieu sur les 3 sites de l'Arena Paris Sud. La gymnastique rythmique et le badminton pourront être observés à l'Arena Porte de la Chapelle. La lutte, le judo pourront être observés à l'Arena Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Le taekwondo et l'escrime auront lieu au Grand Palais, à Paris également. Le rugby investira le Stade de France pendant toute la durée des Jeux, tout comme les nombreuses épreuves d'athlétisme. Le départ du marathon aura lieu au pied de la Tour Eiffel, sur le pont d'Ina. Le Stade Tour Eiffel accueillera le beach volley. Le pont d'Ina sera aussi le point d'ancrage de la natation en eau libre, de certaines épreuves d'athlétisme, du cycliste sur route et du triathlon. Il faudra se rendre à la Concorde afin d'assister aux compétitions de BMX freestyle, breaking et skateboard. Le tir à l'arc se produira aux Invalides. Roland-Garros accueillera les compétitions de tennis et de boxe. Les épreuves du cyclisme auront lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le centre aquatique en Seine-Saint-Denis accueillera quant à lui les compétitions de natation et de water-polo. Le hockey sur gazon à Colombes dans les Hautes-de-Seine. Le stand de tir de la Courneuve, le site d'escalade du Bourget, le château de Versailles. Le golf national verront se dérouler les compétitions de tir sportif, d'escalade, de golf et d'équitation. Les épreuves de voile se dérouleront à Marseille. Il faudra se rendre à Lille afin d'assister aux épreuves de handball. Il sera aussi possible d'assister aux matchs de football dans plusieurs villes de France. En effet, Paris au Parc des Princes, mais aussi Bordeaux, Nantes, Marseille, Nice, Lyon et Saint-Étienne. Et enfin, parce que les Jeux ne se déroulent pas sur le territoire métropolitain, les épreuves de surf auront lieu à Tahiti. On se retrouve juste après Believer de Major Lazer et Shaoutek. We'll be right back.
Radio Tintouin.
La radio qui fait le lien, qui fait du bien.
Et parfois qui fait
quoi.
Parlons maintenant de l'économie aux JO avec Martin.
Et oui, pour commencer, les JO 2021 ont rapporté 62 millions d'euros aux organisateurs de ces Jeux Olympiques à Tokyo, au Japon. Le budget moyen total pour organiser les 7 dernières années confondues est de 14 milliards d'euros. Selon le patron de l'olympisme français, Denis Masseglia, le coût est forcément plus important que la recette, estimait-il en 2012. Maintenant, Mathéo va nous parler de l'écologie aux JO.
Merci Martin. Pour les JO 2022 sont les moins durables de l'histoire. Pour cette 24e édition des JO d'hiver, qui se déroule à Pékin, 100% de la neige utilisée est de la neige artificielle, ce qui fait environ 185 millions de litres d'eau utilisés. Il y a aussi 20 000 arbres qui ont été abattus dans une zone protégée, alors que l'organisation des JO de Pékin 2022 avait bien dit qu'ils étaient respectueux de l'environnement. Le coût environnemental est très élevé aussi. Un domaine skiable a aussi été construit dans une réserve naturelle de Songshang à Yangqing.
Merci beaucoup, Mathéo. On va parler maintenant du dopage avec Wendy.
Qu'est-ce que le dopage? Le dopage est un jargon dopant et une partie consistant à amplifier ses aptitudes physiques ou ses créables à l'aide d'une substance chimique. C'est un procédé omnipèse, particulièrement dans le domaine des sports et du bodybuilding. Le dopage est un procédé ancien. Son origine remonte a priori aux premières compétitions sportives, mais ce n'est qu'au XXe siècle que le parti s'est révélé au grand public. Le premier Beng Zhong, sportif dopé en 1988, ce sprinter canadien d'origine jamaïcaine a remporté la médaille d'or du 100 mètres des Jeux Olympiques du Soul en 1998. Mais seuls les deux joueurs plus tard du Comité international olympique révèlent que le coureur et sportif au Storé Anabolins, il est instantanément exclu des Jeux et sera radié à vie de toute compétition après avoir été encore contrôlé parti positif en 1993. Aussi dans le football, Dean Maradona, sportif dopé en 1994, ce champion du monde en 1996 avec l'Argentine, plusieurs fois champion d'Italie et champion de C3 en 1989 avec Naples, entre autres, contrôle positif en Leflédirne en 1994 lors du mondial exclu du tournoi et contrôlé positif à la cocaïne en 1991. Dans le monde du cyclisme, Richard Vierck et l'affaire Festine, sportif dopé en 1998. La police trouvait énormément de produits dopants et permettra notamment de mettre en évidence le dopage du coureur Richard Vierck. L'équipe Festina serait exclue du tournoi de France 1998. Marco Pantani, sportif de paix en 1999. L'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire du cyclisme, mais il était surtout dopé en saut et sera retrouvé mort le 14 février 2004 dans une chambre d'hôtel suite à une overdose de cocaïne. Lance Armstrong avoue s'être dopé en 2013. Le coureur cycliste américain est 7 fois vainqueur consécutif du Tour de France a avoué s'être dopé à base de DEPO, de testostérone et de transfusion sanguine.
Lors de cette interview, lorsque Oprah pose la question suivante, était-il humainement possible de gagner le Tour de France sans vous doper cette fois d'affilée. Armstrong répond, à mon avis, non. L'affaire du dopage Armstrong ne fait que commencer. Autre cas de dopage, mais cette fois aux Antarctiques. Carl Lewis avoué s'être dopé en 2003. Lewis a été testé positif plusieurs fois entre 1988 et 2000 et a reconnu les faits tout en plaidant l'inadvertance en 2003. Enfin, l'histoire de victoire des tennis est marquée par plusieurs cas de dopage. Marin Jaune, révélation du dopage en 2004, détentrice notamment de 5 médailles olympiques, nier les faits dans un premier temps. Marion Jaune reconnaîtra 3 ans plus tard s'être dopée lors des Jeux olympiques signer ses médailles olympiques lui ont été retirées depuis. Martine Hingis, dopée en 2007. En 2007, la championne de tennis suisse est contrôlée positive à la cocaïne. Wimbledon, la Fédération internationale de tennis, cédait donc de le suspendre deux ans en janvier 2008, malgré son départ en la retraite. Dopée en 2010. Détente de 8 titres de Grand Chelem en médaille d'or, Jeux olympiques d'Alta en 1996, Agassi a reconnu avoir consommé de la drogue méthamphétamine.
Merci Wendy pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant parler des Jeux paralympiques avec Louane.
Les paralympiques, c'est quoi ? Les paralympiques, c'est des gens qui font des compétitions en fauteuil roulant, avec une fausse jambe, des membres atrophiés, et je trouve qu'ils sont très courageux.
Merci beaucoup, Louane. Et on se retrouve juste après Ça va, Claudio Capeo.
À toi la fille qui me rend si dure et si tendre, qui s'aime parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle aime tremper dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois me demande comment ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre qu'on me la rende. Mon bonheur me demande comment ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va.
à ce que j'aime, parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses, mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête, mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. Ça va, ça va, comme si, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Personne qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va.
Vous écoutez Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs.
Maintenant, parlons des insolites.
En 1920, Oscar Schwann a remporté l'argent au tir à l'âge de 72 ans. A l'inverse, le plus jeune athlète médaillé fut le grec Dimitros Loundrei, à 10 ans, qui fut médaillé de bronze aux JO d'Athènes en 96 en gagnant sa médaille aux barres parallèles.
Lors des Jeux de 1972, l'haltérophile David Rieger est le favori de sa catégorie de mi-lourds. Malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Il rate complètement son tournoi et ne repart avec aucune médaille. Le soviétique va alors complètement perdre les pieds. Il va se taper la tête contre les murs, s'arracher des poignées de cheveux. Pour le calmer, il a fallu l'intervention des autres concurrents avant qu'il ne se blesse sérieusement. 4 ans plus tard, il deviendra champion olympique.
Les 5 anneaux olympiques ont fait leur apparition en 1920 à Anvers. Ils ont été conçus d'après un dessin original de Pierre de Coubertin et symbolisent l'union des 5 continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux JO. En 1896, les femmes ne concouraient pas aux Jeux Olympiques. Elles ont fait leurs premières Olympiades à Anvers en 1900.
Toujours en 1972, l'Américain Mark Spitz remporte 7 médailles en seulement 8 jours, en battant sur chaque épreuve le record du monde. Les journalistes, face à autant de réussites, lui demandent son secret. Le nageur, avec humour, leur rétorque que c'est grâce à sa moustache. Celle-ci empêche l'eau de rentrer dans sa bouche et lui fait donc gagner du temps. Une blague que ses concurrents russes ont prise au sérieux, qui, un an plus tard, se présente dans les bassins avec une moustache.
Très drôle. En 1960, lors des JO de Rome, Bikila, soldat de l'armée éthiopienne, a décidé de courir le marathon olympique pieds nus. Le parcours de 42 km dans les rues pavées de Rome, car ses nouvelles chaussures lui donnaient des ampoules. Mais le plus fou de tout ça, c'est que Bikila gagna cette course en 2h15 et a non seulement gagné la course, mais battu le record du monde.
Encore lors de ces mêmes Jeux Olympiques de 1972 à Munich, une énorme polémique éclate lors de la finale de basketball entre les États-Unis et la Russie. À 3 secondes de la fin, les Américains prennent l'avantage, mais l'arbitre siffle une seconde avant la fin du match, car les Russes avaient demandé un temps mort qu'il a été oublié. Une nouvelle remise en jeu est alors effectuée, mais les Russes ne marquent pas et les Américains sont champions. Oui, mais voilà qu'un officiel décide contre toute attente de faire jouer ces 3 secondes car le chronomètre était mal réglé. Les Russes parviennent finalement à marquer. Malgré la réclamation des États-Unis, ce sont bien les Russes qui l'emportent 51-50. En guise de protestation, les Américains décident de ne pas participer à la cérémonie et refusent leur médaille d'argent.
Les premiers Jeux Olympiques retransmis à la télé furent les premiers d'après-guerre en 1848. Le sportif le plus médaillé des Jeux Olympiques est Michael Phelps. Le nageur américain a remporté en l'espace de 4 Olympiades 28 médailles, dont 23 en or.
Lors des demi-finales du 400 mètres, là encore à Barcelone, le favori de la course Derk Rodman se claque violemment l'ischio-jambier dès la sortie du premier virage. Les officiels lui viennent en aide, mais celui-ci les repousse et reprend la course. Le Britannique boitille, mais veut à tout prix terminer la course. Il est soutenu par la foule qui admire son courage. Son père surgira sur la piste afin de l'aider à franchir la ligne d'arrivée.
Très belle histoire. Merci à vous tous. C'était les JO en ondes. Bonne journée.
Et à bientôt.